Donc cette présentation, donc on va la faire à deux voix. Donc en fait, ce travail, c'est son travail de recherche qu'il mène dans le cadre de sa première année de master, et donc qui porte sur l'évolution des peuplerets en Anjou. Donc l'idée, c'est de questionner un petit peu l'évolution de ces peuplerets. En effet, à l'échelle nationale, ce que l'on constate, c'est un recul des peuplerets. C'est ce que souligne la filière populicole, avec une certaine crainte, puisque qui dit recul des surfaces dit aussi risque de pénurie pour les industriels. Le problème de des surfaces de peuplerets, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'inventaire fiable à ce jour, et dès lors, eh bien, on est obligé de se tourner un petit peu vers des estimations. Donc c'est le Conseil national du peuplier qui en propose une estimation en se fondant donc sur le nombre de plants vendus, soulignant le fait qu'il y a un abaissement du nombre de plants vendus qui témoigne finalement d'un abaissement des surfaces, puisqu'on plante toujours plus ou moins à la même densité. Et donc ceci a conduit a suscité la mise en place d'un projet de recherche. Donc c'est un projet de recherche qui porte sur les peuplerets, qui est financé par le ministère de l'Agriculture et qui est porté par le CRPF, Centre Val-de-Loire Île-de-France. Et donc c'est dans le cadre de ce projet de recherche que l'étude de Mohamed est conduite. Donc ce projet de recherche se focalise sur une des régions populicoles qui est la région entre la région Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Et donc l'idée, c'est face à ce problème de déclin des surfaces populicoles, d'essayer de trouver des solutions, donc en aidant financièrement les populiculteurs qui s'engagent à replanter en respectant certaines règles. Et c'est aussi essayer d'amorcer un dialogue, parce que le problème de la populiculture, c'est qu'il y a pu avoir certaines controverses, certains désaccords, certains conflits, même parfois localement, notamment en Anjou. Et l'idée, eh bien, de ce projet, c'est aussi de mettre un peu tout le monde autour de la table et d'essayer de dépasser les conflits qu'il y a pu avoir, des conflits qui ont pu toutefois s'apaiser. Ce déclin des surfaces souligné par le Conseil national du peuplier, on le perçoit à travers ce graphique, il est valable finalement à l'échelle nationale, mais aussi pour chacune des régions, des grandes régions identifiées. Et donc la question du travail de Mohamed est notamment de savoir, eh bien, est-ce que ce recul des surfaces populicoles, est-ce qu'on l'aperçoit localement sur des sites d'études, notamment en Anjou, qui apparaît comme l'une des régions populicoles, et quelles sont finalement les raisons locales de ce recul. Donc il va tout d'abord vous présenter ses sites d'études et sa méthodologie, puis l'évolution des surfaces populicoles sur ces sites et les facteurs qui expliquent ces évolutions.
Merci. Présentation des sites d'études et méthodologie. Notre site d'études se situe donc en Anjou, et l'étude porte sur 4 communes réparties sur 2 sites pilotes du projet. Sur le site 1, nous avons la commune de Saint-James-sur-Loire et Saint-Jean-de-la-Croix. Sur le site 2, nous avons les communes de Villevêque et de Briolé. Les deux sites présentent des enjeux d'ordre environnementaux, paysagers, culturels et économiques. Le site pilote numéro 1 est inclus dans le périmètre du Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des sites classés et inscrits. Comme sites classés, nous avons par exemple la confluence Maine-Loire, le couteau Angevin, le site de la Roche-Mure. Comme site inscrit, nous avons les rives et la confluence Maine et Loire, le bourg de Déné et le hameau de Mantelon. Le site 2 se situe dans les basses vallées angevines qui ont été classées en ZINIEF en 1985, désignées en ZICO en 1992, adhérées à la convention Ramsar en 1995 et intégrées au réseau Natura 2000 en 2004. Selon Montenbolz, Le nom Basse-Vallée Angevine a été introduit par le groupe angevin d'études pour la conservation des oiseaux dans le but de faire de ce milieu une réserve ornithologique. Selon Eric Pailassa, les premiers conflits ont débuté dans les Basses-Vallées Angevines contre l'herboisement de peupliers sur des prairies abandonnées. La réglementation du boisement dans les Basses-Vallées Angevines a abouti à la délimitation de trois zones, à savoir une zone interdite qui représente 50%, une zone réglementée 25% et une zone libre au boisement qui représente 25%. La méthodologie de l'étude, le choix des communes. Les communes choisies pour l'étude ne sont pas le fruit d'un hasard. Nous avons donc tenu compte de l'histoire de la polyculture dans chaque commune, de l'importance des surfaces polyculturelles et des enjeux locaux. Comme exemple, la commune de Villebèque a été choisie parce que c'est dans cette commune qu'a eu lieu la parcelle expérimentale de 14 hectares dans les années 60 par les élus locaux. Les dates choisies pour l'étude. Pour cette étude, nous avons choisi deux dates, à savoir 1988 et 2013. Les deux dates ont été choisies en fonction des conflits autour de la polyculture. D'après l'état de l'art, les conflits autour de la polyculture ont commencé dans les années 90, raison pour laquelle nous avons donc choisi pour cette étude une date antérieure à 1990 et une date postérieure à 1990. L'année 2013 a été choisie comme la dernière date parce que c'est la date la plus récente à laquelle nous disposons de photographies aériennes sur nos sites d'études. Plusieurs données ont été mobilisées pour la mise en place du SIG, à savoir les données B de forêt, les données cadastrales et les photographies aériennes. Chaque donnée présentant des insuffisances, nous avons donc dû confronter ces données pour pouvoir donc concevoir notre SIG. Après les travaux de géoréférencement, de vectorisation et de vérification sur le terrain, nous avons donc procédé au traitement de nos données. Le traitement des données a consisté donc à créer une couche d'intersection entre la couche de 1988 et celle de 2013. Sur cette couche d'intersection, plusieurs champs ont été créés, ce qui a rendu donc possible le calcul des surfaces et la réalisation des différentes cartes de la dynamique. Maintenant, nous allons donc présenter l'évolution des peupliers sur les sites d'études. Durant la période 1988 et 2013, les peupliers des sites d'études ont régressé. Mais il est à souligner que cette régression n'est pas la même selon les sites, c'est-à-dire elle diffère d'un site à un autre. Avant de passer à la dynamique des peupliers, nous allons donc présenter les cartes d'occupation des sols sur chaque site. La figure ci-contre montre l'occupation du sol en 2013 sur le site 1. L'examen de cette figure montre que les peupliers évoluent plus dans les zones de prairies. Durant la période 88-2013, les peupliers ont régressé sur le site 1. Cette régression est observable tant sur le périmètre UNESCO qu'hors du périmètre UNESCO. Cette régression, nous avons donc jugé utile de la quantifier. Durant la période 1988-2013, les peupliers du site 1 sont passés de 176,4 hectares à 124,8 hectares, soit une régression de 29,4%. Nous avons également cherché à savoir les peupleraies disparues, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Nous avons donc trouvé que 51% des peupleraies disparues ont été reconverties en forêt, 35% en prairies d'élevage et 14% en culture. Le site 2. Ici, nous avons la carte d'occupation du sol en 2013 sur les communes du site 2, où également nous constatons que les peupleraies évoluent plus dans les zones de prairies. Tout comme sur le site 1, sur le site 2 également, durant la même période, nous constatons une régression des peupleraies. Mais cette régression est moindre par rapport à celle constatée sur le site 1. Ici, contrairement au site 1, nous avons des peupleraies qui ont apparu durant la période 1988 et 2013. De 1988 à 2013, la superficie des peupleraies est passée sur le site 2 de 606,3 hectares à 559,1 hectares, soit une régression de 7,8%. Ici également, nous avons cherché à savoir les peupleraies qui ont disparu, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Nous avons donc trouvé que 43% des peupleraies disparues sont devenues de la prairie d'élevage, 23% en végétation herbacée, 23% en culture. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir quels sont les facteurs locaux de cette régression. Le tout premier facteur est la baisse de la rentabilité du peuplier. Il est à souligner que les populteurs du secteur d'étude ont connu dans les années 2000 une surproduction qui s'en est donc suivie du baisse des prix, ce qui a découragé pas mal de populteurs pour la replantation. Le prix est baissé jusqu'à 28 ou 32 le mètre cube. Un populteur des Basses-Vallées angevines lors d'un entretien déclare ceci: avec la baisse des prix, c'est avoir une usine en faillite si on considère la peuplerie comme une usine. Et dans cette affaire, il y a des gens qui n'ont plus replanté, surtout les petits exploitants. Il continue en disant: c'est difficile d'inciter les gens à planter quand on sait que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Le deuxième facteur local, c'est l'action du castor. Le castor est un rongeur qui a refroidi l'enthousiasme des populteurs du secteur d'étude. Le castor est un animal protégé qui abat les plants de peupliers le plus souvent à une hauteur de 2 mètres, mettant donc en péril la plantation. Un populteur dit lors d'un entretien: le castor, il peut retarder un hectare et demi de peuplier en une nuit et on ne peut rien faire. C'est un animal protégé qui a été introduit par les gens de l'écologie puisqu'il n'existait pas ici. Et donc, il colonise tout, quoi. Le troisième facteur local de la régression, c'est le conflit entre les acteurs de l'exploitation des peuplerets et les collectivités territoriales. Il est à signaler que lors de l'exploitation des peuplerets interviennent plusieurs acteurs, à savoir les propriétaires, les acheteurs, les bûcherons, les bardeurs et les récupérateurs des branchages. Dans leur intervention, ils utilisent le plus souvent des engins lourds qui abîmeraient les chemins communaux. Cette action ne laisse donc pas indifférent les collectivités territoriales qui prennent parfois des mesures contraignantes pour les apiculteurs. Un maire dit ceci lors d'un entretien. La grosse problématique ici, c'est l'exploitation. Moi, j'interdis aux gens d'aller exploiter les peupliers après le 15 octobre parce qu'on peut avoir une crue au 1er novembre. Pensez bien, les engins, quand ils arrivent, ils vont vous mettre dans les contrées inondables. Ils vont vous mettre des trous partout. Il dit encore, nos chemins n'ont jamais été faits pour supporter des charges pareilles. Il continue, je fais faire un constat d'huissier avant et après l'exploitation. C'est ce qui a freiné un peu certains dans la replantation. Le quatrième facteur est l'inclusion de certaines communes dans les sites UNESCO, patrimoine mondial, qui constitue donc un frein à la populture le long de la Loire. Un maire nous dit ceci, il faut savoir que côté Loire maintenant, c'est interdit par un label appelé Confluence Maine Loire. Il subsiste quelques parcelles, mais quand elles vont être abattues, ce serait terminé. Ce qui voudrait donc dire que dans le secteur d'études, la régression sera encore plus prononcée dans les années à venir. Je vais donc laisser la parole à Amélie Robert pour la conclusion.
Merci. Donc on le voit à travers cette étude qui est en train de mener Mohamed, on a bien un recul des surfaces populicoles dans ces régions de l'Anjou. Et effectivement, c'est une combinaison de facteurs finalement qui explique ce recul. C'est la baisse des aides publiques, c'est la baisse du prix du bois, comme l'a souligné Mohamed. C'est aussi les maladies qui vont affecter le peuplier. On le verra, c'est aussi le puceron à la Niger, par exemple, hein, qui aussi a des conséquences sur la populiculture. C'est aussi les tempêtes, l'effet aussi des rongeurs, notamment du castor, qui pose particulièrement problème aujourd'hui à la aux populiculteurs. C'est aussi le changement des populiculteurs qui ne sont plus les propriétaires de parcelles de peupleraies, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ils sont plus âgés ou alors ils sont décédés et du coup ce sont leurs successeurs. Donc on est aussi face à un changement social aussi de ces populiculteurs. Et puis il y a aussi la question des controverses autour de ces peupleraies, donc paysagères, biodiversité, qu'on interrogera aussi tout à l'heure. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que bien souvent, derrière cette question de la populiculture, il y a aussi d'autres enjeux qui viennent se rajouter finalement et qui rajoutent au conflit. On le voit à travers la problématique posée par les chemins communaux, mais c'est aussi plus globalement le problème de la fermeture des vallées qui se pose et où finalement le peuplier n'est pas seul en cause, hein. C'est aussi l'enfrichement, c'est lié à l'arrêt de l'agriculture. Donc le peuplier est venu parce que c'était un moyen de rentabiliser finalement ces terres qui n'étaient plus cultivées, mais il y a aussi d'autres parcelles qui ont été enfrichées. Aujourd'hui, le peuplier est un peu moins rentable et finalement, on observe, au moins localement, en tout cas en Anjou, on observe aussi un certain retour des agriculteurs sur ces zones avec finalement maintenant l'agriculture qui vient quelque part concurrencer un petit peu. Je vois un hochement de tête. concurrencer au moins localement la populiculture avec, en tout cas selon le témoignage d'un maire qu'on a pu interroger, disant que eh bien finalement c'est peut-être du fait des subventions que peuvent avoir certains agriculteurs, et eh bien ça deviendrait peut-être aujourd'hui plus rentable de se lancer dans dans l'élevage, mais on peut aussi associer élevage et populiculture, comme on a pu le voir dans les basses vallées angevines et comme on le voit à travers cette photo. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions...